Chapitre 13. Pirates et prisonniers.
Ce sont des pirates, espèce d'imbéciles,
lança Kyle à Saadar.
Rassemblez vos hommes pour les repousser. Nous avons encore une chance de leur échapper. Avec Yémin à la barre, Vivacia va.
En effet, ce sont des pirates, répondit le prêtre d'un air triomphant. Et ils arborent le pavillon au corbeau.
Ce sont les pirates qu'espèrent tous les esclaves de Jamelia. Ils capturent les transports de chair humaine et libèrent les prisonniers. Et ils jettent les équipages aux serpents puants qui les suivent partout.
Il prononça cette dernière phrase dans un grondement féroce qui détonnait avec son sourire ravi.
En vérité, ça est venu à notre aide,
ajouta-t-il, puis il s'éloigna à grands pas vers le pass avant, où les esclaves montraient du doigt le pavillon aux corbeaux en poussant des cris de joie. La nouvelle s'était répandue dans tout le bateau comme une traînée de poudre. Alors que la Marietta se plaçait bord à bord avec la vive nef, des grappins jaillirent, et Yémin perçut l'inquiétude de Vivacia lorsque les crocs acérés raclèrent ses ponts pour se prendre dans son bastingage.
« Du calme, madame !» fit-il à mi-voix.
L'appréhension du navire se mêlait à celle qu'il éprouvait aussi. Il ne restait plus d'équipage pour résister à la capture, même si lui-même avait encore eu le courage de se battre et de voir couler le sang. L'épuisement pesait sur lui comme un manteau lourd et glacé. Il demeura devant la barre, les mains sur les poignets, tandis que l'autre bateau se rapprochait, halé par les grappins. Comme des fourmis surgissant d'un nid dérangé, des matelots aux vêtements criards se déversèrent par-dessus ses bordages. Dans le passe-avant, quelqu'un criait des ordres aussi bien aux pirates qu'aux esclaves. Avec une obéissance et une rapidité quasi magiques, des hommes commencèrent à envahir la mâture et à prendre les ris, prompts et efficaces. Yémin entendit descendre la chaîne d'ancre. Une voix autoritaire donnait des ordres auxquels les esclaves se prêtaient tout en évitant de gêner les pirates.
Yémin restait immobile et il l'espérait invisible parmi les autres esclaves. Il ressentait presque du soulagement. Ces pirates étaient en train de s'emparer de son bateau, mais au moins ils œuvraient avec compétence. La vive nef se trouvait aux mains de vrais marins.
Malheureusement, son soulagement ne dura pas. Un peu plus tard, des cadavres furent jetés par-dessus bord.
Le serpent blanc que Yémin croyait loin derrière, arrêté par la tempête, creva soudain la surface de l'eau, la gueule béante. Plus loin, d'autres, aux teintes plus vives, hissèrent la tête hors de l'eau pour observer le navire avec prudence et curiosité.
L'un d'eux déploya soudain une vaste crête et tendit le cou pour émettre un mugissement de défi.
Vivacia poussa un cri à leur vue.
« Non, faites-les partir !»
s'exclama-t-elle. Puis elle ajouta
« Pagantri, non ! Ne le donnez pas à ces bêtes immondes ! Yémin, dis-leur d'arrêter, dis-leur d'arrêter !»
On entendit pour toute réponse un éclat de rire effrayant. Yémin jeta un regard à son père dont les yeux paraissaient morts.
« Il faut que j'aille auprès d'elle !»
dit-il d'un ton d'excuse.
« Restez ici !»
Kyle eut un grondement méprisant.
« À quoi bon te fatiguer ? Tu l'as déjà perdu ! Tu as prêté l'oreille à ce prêtre et laissé les pirates monter à bord. Tu n'as pas levé le petit doigt, tout comme la nuit dernière, où tu n'as rien fait pour nous prévenir de la rébellion des esclaves. »
Il secoua la tête.
« Un moment cette nuit, j'ai cru t'avoir mal jugé, mais je me trompais. »
« De même, je n'ai pas levé le petit doigt pour vous empêcher de transformer mon navire en transport d'esclaves, »
dit Yémin d'un ton amer. Il toisa lentement son père.
« Je ne me trompais pas non plus, j'en ai peur, » dit-il.
Il bloqua la barre à l'aide d'une boucle de cordage et s'en alla vers l'étrave sans un regard en arrière.
« Pour le bateau, » songea-t-il. « C'est pour le bateau que je le fais. »
Il n'avait pas laissé son père seul et blessé parce qu'il le haïssait. Il ne l'avait pas abandonné en espérant plus ou moins qu'il se ferait tuer. La vive nef avait besoin de lui et il se rendait auprès d'elle, voilà tout. Il se dirigeait vers le gaillard d'avant. Arrivé au passe-avant, il se fraya discrètement un chemin parmi les esclaves attroupés.
À la lumière du jour, les anciens prisonniers offraient un spectacle encore plus affreux que dans la quasi-obscurité des cales. Écorchés par les chaînes et les mouvements du navire, leur peau couverte de haillons apparaissait croûteuse et blême. Les privations en avaient presque réduit certains à l'état de squelettes ambulants. Quelques-uns portaient de meilleurs vêtements que leurs camarades, ayant dépouillé les morts ou récupéré les affaires des hommes d'équipage. Les faces de cartes s'étaient apparemment appropriées la garde-robe du capitaine et semblaient plus à l'aise que nombre de leurs compagnons. Beaucoup avaient le regard clignotant, égaré, d'animaux restés en cage dans le noir et qu'on vient de libérer. On avait découvert les réserves du navire. Des barriques de biscuits avaient été hissées sur le pont et leurs couvercles défoncés. Certains esclaves restaient figés, avec entre leurs mains de pleines poignées de biscuits, comme pour se convaincre qu'ils avaient de quoi manger quand ils le voulaient. Délivrés de leur chaîne, ils paraissaient ne pas encore se rappeler comment se déplacer librement ni comment on agit à son gré. La plupart traînaient encore les pieds, et les regards qu'ils échangeaient évoquaient ceux de bœufs entre eux. On leur avait volé leur humanité, et il faudrait du temps avant qu'ils la regagnent. Yémin s'efforçait de les imiter, se faufilant d'un groupe à l'autre. Saadar et ses faces de carte se tenaient au milieu du passavant et paraissaient souhaiter la bienvenue aux pirates. Le prêtre s'adressait à trois d'entre eux. Aux rares mots que Yémin surprit, il leur tenait un discours fleuri de salut et de remerciement. Aucun des trois hommes ne semblait particulièrement impressionné. Le plus grand avait même l'air dégoûté. Yémin partageait son sentiment. Cependant, tout cela ne le regardait pas. Seul comptait Vivacia. Ses vaines supplications s'étaient muées en petits cris inarticulés. Yémin repéra deux faces de cartes sur le côté, sous le vent du navire, occupées à jeter par-dessus bord, à gestes mécaniques, les cadavres entassés de matelots et d'esclaves. L'air détaché, il ne parlait que de la gloutonnerie du serpent blanc qui attrapait les corps. Yémin aperçut Clément lorsqu'il passa le bastingage, et jamais il ne devait oublier l'image de ses pieds nus émergeant de son pantalon en haillons quand le serpent saisit la dépouille de son ami dans sa vaste gueule.
« Ça nous pardonne, » murmura-t-il.
Il se détourna du macabre spectacle et s'accrocha à l'échelle qui menait sur le gaillard d'avant. Il venait de commencer à monter quand il entendit Saadar ordonner à une face de carte.
« Va chercher le capitaine Havre !»
Yémin s'arrêta un instant, puis grimpa l'échelle 4 à 4 et se précipita vers l'étrave.
« Vivacia, je suis là, je suis là !» fit-il à voix basse. « Yémin !»
s'exclama-t-elle dans un hoquet. Elle se tourna vers lui en tendant la main, et il se pencha pour la toucher. L'hébétude et la terreur ravageaient les traits de la figure de proue.
« Il y a eu tant de morts, »
chuchota-t-elle.
« Il y a eu tant de morts cette nuit, et qu'allons-nous devenir à présent ?»«
Je l'ignore, » répondit-il, refusant de mentir.
« Mais je te promets que de mon seul gré, je ne te quitterai plus jamais. Je ferai aussi tout ce qui est en mon pouvoir pour éviter de nouvelles morts. Mais il faut que tu m'aides, il le faut. » « Mais comment ? Personne ne m'écoute, je ne suis rien pour ces gens. »«
Pour moi, tu es tout. Sois forte, sois courageuse. » Il y eut une soudaine animation dans le passavant, un murmure général qui se transforma en rugissement bestial. Yémin n'eut pas besoin de regarder ce qui se passait.
« Ils ont amené mon père, il faut les empêcher de le tuer.
Pourquoi ?»
La soudaine dureté de sa voix glaça le sang de Yémin.
Parce que je lui ai promis que j'essaierais. Il a passé la nuit entière avec moi à me donner des conseils. Malgré tout ce qui nous sépare, il m'a aidé à ne pas t'éventrer sur les rochers.
Yémin reprit son souffle.
Et aussi parce que je ne pourrais pas les laisser abattre mon père sans réagir, je deviendrais un monstre.
Nous ne pouvons rien faire,
dit-elle avec amertume.
Je n'ai pas réussi à sauver Gantry. « Je n'ai pas réussi à sauver Clément. Même Findo, avec son violon, je n'ai pas pu le sauver. Malgré tout ce que ces esclaves ont enduré, ils ont seulement appris à ne pas faire attention à la souffrance d'autrui. Aujourd'hui, c'est la douleur qui leur sert de monnaie dans toutes leurs transactions. Rien d'autre ne les affecte, rien d'autre ne les satisfait.
La vive nef commençait à ne plus maîtriser sa voix.
Et c'est de ça qu'ils m'emplissent, de leur souffrance, de leur soif de faire mal, de...
Vivacia, fit doucement Yéma, puis plus fermement.
Vive nef, écoute-moi. Tu m'as envoyé dans les cales soigner les esclaves pour me rappeler qui je suis, et tu as eu raison. Tu as eu parfaitement raison. Maintenant, rappelle-toi qui tu es à ton tour et ce qui te guide. Souviens-toi de tout ce que tu sais du courage. Nous allons en avoir besoin.
Comme en réponse à ses propos, il entendit Saadar crier d'une voix autoritaire.
« Yéma, descend. Ton père prétend que tu vas prendre sa défense. »
Une respiration. Deux. Trois. Se trouver soi-même au centre de tout. Découvrir ça au centre de soi-même. Ne pas oublier que ça est tout et que tout est ça.
« Ne crois pas pouvoir te cacher !»
tonna Saadar.
« Viens ici, c'est le capitaine Kenit qui te l'ordonne !»
Yéma ramena ses cheveux en arrière, se leva, puis en se tenant le plus droit possible, il gagna l'extrémité du gaillard d'avant et baissa les yeux sur le groupe d'hommes.
« Nul ne me donne d'ordre sur le pont de mon propre navire !»
jeta-t-il, puis il attendit la réaction de ses auditeurs.
« Ton navire ? Toi, que ton père lui-même a réduit en esclavage, tu prétends posséder ce navire ?»
Yéma reprit espoir. C'était Saadar qui avait répondu, pas un des pirates. Pendant que le prêtre parlait, il les regarda qui le dévisageaient, bouche bée.
« Ce bateau m'appartient comme j'appartiens à ce bateau, par droit du sang. Et si vous croyez pouvoir remettre mes revendications en question, demandez à mon père comment il s'est débrouillé avec ce navire. »
Il inspira profondément et s'efforça de prendre un ton de commandement.
« La vive Dev Vivacia est à moi. Emparez-vous de lui et amenez-le ici. »
ordonna Saadar à ses faces de carte d'un air mécontent.
« Posez la main sur lui et vous êtes tous morts !»
Le ton de Vivacia n'était plus celui d'un enfant effrayé, mais celui d'une matriarche outragée. Malgré l'ancre et les grappins qui la maintenaient, elle parvint à faire rouler sa coque.
« N'en doutez pas !»
rugit-elle soudain.
« Vous m'avez souillé de vos excréments, et je ne me suis pas plainte. Vous avez versé le sang sur mes ponts, et je devrais éternellement supporter toutes ces morts, mais je n'ai pas réagi. Cependant... « Faites du mal à Yéma, et ma vengeance n'aura de fin qu'avec votre mort à tous !»
Le balancement s'accentua sans que le Marietta pût l'imiter. Le cordage d'encre gémit, et spectacle plus effrayant pour Yéma. Les serpents au loin se mirent à battre l'eau de leur queue en trompettant d'un air interrogateur. Leurs affreuses têtes s'avançaient et se reculaient, la gueule ouverte comme si elles attendaient à manger. Une des créatures, plus petite que les autres, se propulsa soudain en avant pour attaquer le serpent blanc, qui se mit à crier et à mordre son agresseur à l'aide de ses myriades de crocs. Des hurlements d'effroi s'élevèrent des ponts de Vivacia, et les esclaves s'écartèrent du bastingage et descendirent du gaillard d'avant pour former un groupe serré. D'après le ton de certains cris, Yéma comprit que peu d'entre eux avaient la moindre idée de ce qu'était une vive nef. Tout à coup, une femme se détacha de la troupe des pirates, traversa le pont en courant et grimpa sur le gaillard d'avant. Yéma n'avait jamais vu sa pareille. Grande et mince, elle portait les cheveux très courts et le tissu de bonne qualité de ses jupes et de son ample chemise trempée collait à son corps comme si elle avait été de quart toute la nuit. Pourtant, elle ne paraissait pas plus dépenaillée qu'une tigresse qui sort de l'eau. Elle atterrit devant Yéma avec un choc sourd.
« Descends !»
dit-elle, et c'est son regard plus que sa voix qui en faisait un ordre.
« Descends le voir tout de suite ! Ne le fais pas attendre !»
Sans lui répondre, il s'adressa au navire.
« Ne crains rien. Ce n'est pas nous qui avons quelque chose à craindre, »
répliqua Vivacia.
Avec plaisir, Yémin vit la femme pâlir de stupéfaction. Entendre parler la vive nef était une chose. C'en était une autre de se trouver assez près pour distinguer l'éclat furieux de ses yeux. La figure de proue jeta un regard de mépris à la femme, puis elle secoua la tête pour écarter de son visage ses boucles sculptées. C'était un geste typiquement féminin, le défi lancé à une rivale. Le pirate repoussa les courtes mèches noires de son front et rendit son regard à la vive nef. L'espace d'un instant, Yémin fut frappé de les trouver à la fois si différentes et si semblables. Sans attendre davantage, il bondit avec légèreté du gaillard d'avant et atterrit dans le passavant. La tête droite, il s'avança d'un pas assuré vers les pirates. Il n'eut pas un coup d'œil pour Saadar. Plus il le voyait, moins il l'imaginait en prêtre. Le chef des pirates était un homme de grande taille, bien musclé. Ses yeux noirs brillaient au-dessus de la trace de cautère qu'il portait à la joue. C'était donc lui-même un ancien esclave. Sa chevelure indisciplinée était ramenée en queue de cheval et retenue par un mouchoir couleur or. Comme chez la femme, sa tenue opulente était trempée et lui collait à la peau. Il n'hésitait donc pas à mettre la main à la pâte, songea Yémin, qui en éprouva malgré lui un certain respect. Il soutint son regard. « Je m'appelle Yémin Vestrit, des Vestrites, marchand de Terrilville. Vous foulez les ponts de la vive nef Vivacia, qui appartient elle aussi à la famille Vestrit. » Mais c'est un personnage de haute taille, au teint pâle, qui répondit à la place de l'homme à la cicatrice.
« Je suis le capitaine Kennit. Tu t'adresses à mon estimé second, Sorcor, et ce navire qui était à toi est désormais à moi. »
Yémin le parcourut du regard, effaré au point de ne savoir que dire. Il s'était habitué à la puanteur des humains, mais cet homme empestait la maladie. Il jeta un coup d'œil au moignon de jambe et nota la béquille sur laquelle Kennit s'appuyait, la cuisse enflée qui tirait sur le tissu de son pantalon comme la chair à saucisse gonfle le boyau. Quand il croisa ses yeux pâles, il observa qu'ils étaient grands et brillants de fièvre, que sa peau était tendue sur les os de son visage. Lorsqu'enfin il parla, il déclara d'une voix douce au mourant
« Ce navire ne pourra jamais vous appartenir. Il ne peut appartenir qu'à un membre de la famille Vestrit. »
D'un petit geste de la main, Kennit désigna Kyle.
« Pourtant, celui-ci affirme en être propriétaire. »
Le père de Yémin réussit tant bien que mal à se redresser et même à se tenir presque droit. Il ne se laissa aller à manifester nulle peur ni douleur. C'était à présent un homme qui attendait son verdict. Il n'adressa pas la moindre parole à son fils. Yémin formula sa réponse avec soin.
Il en est propriétaire, en effet, au sens où on peut posséder un bien. Mais la vive nef est à moi. Je ne prétends pas en être propriétaire, pas plus qu'un homme ne peut se dire propriétaire de son fils.
Le capitaine le toisa d'un air dédaigneux.
Tu m'as l'air un peu jeune pour te prétendre père. Et, d'après la marque sur ta joue, j'ai l'impression que c'est le navire ton propriétaire. Si je comprends bien, ton père est entré par mariage dans une famille de marchands, mais c'est toi qui es du sang de cette famille.
Je suis Vestrit par le sang, oui.
Yémin s'était exprimé d'un ton posé.
Ah !
Nouveau petit geste en direction de Kyle.
Alors, nous n'avons pas besoin de ton père, seulement de toi.
Kennit s'adressa à Saadar.
Vous pouvez en disposer, comme vous le demandiez, et de ces deux-là aussi.
Il y eut un bruit d'éclaboussure suivi d'un coup de trompe d'un des serpents. Yémin se tourna sur tribord juste à temps pour voir deux faces de cartes faire basculer le deuxième matelot jamélien par-dessus bord. Il tomba en hurlant jusqu'à ce que le serpent blanc interrompe son cri d'un claquement des mâchoires.
« Attendez !»
s'exclama Yémin, mais nul n'y prêta attention.
Vivacia poussa un cri d'horreur et voulut frapper les serpents à coups de poing, mais ils se trouvaient trop loin.
Des faces de cartes étaient en train de s'emparer du père de Yéma.
Le garçon se jeta non sur eux, mais sur Saadar et la grippa par le devant de sa chemise.
« Vous aviez promis de leur laisser la vie sauve. S'ils aidaient à manœuvrer le bateau pendant la tempête, vous leur aviez promis la vie sauve !»
Saadar haussa les épaules en souriant. « Ce n'est pas moi qui décide, mon garçon, mais c'est le capitaine Kenyit. Il n'est pas tenu par ma parole. »
« Votre parole a si peu de valeur qu'on ne pourrait obliger personne à la respecter !»
cria furieusement Yéma. Il pivota vers les hommes qui avaient saisi son père.
« Relâchez-le !»
Sans l'écouter, ils entraînèrent son père, malgré sa résistance, vers le bastingage. Physiquement, Yéma ne pouvait rien contre eux. Aussi s'adressa-t-il encore une fois au capitaine Kenyit, disant un mot précipité.
« Relâchez-le, vous avez vu la réaction de la vive nef face au serpent. Si vous leur jetez quelqu'un de sa famille, sa colère sera terrible !»«
Je n'en doute pas, » acquiesça le capitaine pirate d'un ton languide. « Mais il ne fait pas vraiment partie de sa famille, elle s'en remettra donc. »
« Pas moi !»
déclara Yéma avec rage.
« Et vous apprendrez vite que si l'on blesse l'un de nous, nous saignons tous les deux. »
Son père se débattait toujours, mais sans un mot et sans beaucoup d'énergie. Près du bateau, le serpent blanc trompeta avec impatience. Yéma se savait trop chétif pour l'emporter sur les deux faces de carte, sans parler de tous les hommes dont disposait le pirate. Kenyit, en revanche, c'était une autre affaire. Vif comme un serpent, Yéma le saisit par le devant de sa chemise et lui donna une secousse de façon à faire tomber sa béquille et à l'obliger à dépendre de lui pour rester debout. Le brusque mouvement arracha un cri de douleur au mourant. Son second s'avança avec un grondement.
« Arrière !»
fit Yéma.
« Et ordonnez à ces hommes d'arrêter. Sinon je flanque un coup de pied dans son moignon et j'éclabousse le pont avec sa chair pourrie. Attendez, lâchez-le !»
L'ordre émanait non de Sorcor, mais de la femme. Les hommes se figèrent, indécis, regardant tour à tour Saadar et la femme. Yéma ne perdit pas son temps à lui parler. Entre ses poings, Kenyit était au bord de l'évanouissement. Le jeune garçon lui imprima une nouvelle secousse et dit d'une voix menaçante
« Vous brûlez de fièvre et vous puez la pourriture. En ce moment, même avec une seule jambe valide, vous avez le pouvoir de nous tuer tous les deux, mon père et moi. Mais dans ce cas, vous ne posséderez pas mon bateau plus de quelques jours avant de nous suivre au fond. Et tous ceux que vous laisserez sur le pont de la Vivacia mourront eux aussi. Le navire s'en chargera. Alors, je vous propose de trouver un terrain d'entente. »
Le capitaine Kenyit leva lentement les mains et agrippa les poignets de Yéma. Le jeune garçon n'en avait cure. Pour le moment, il avait le pouvoir de causer à l'homme une souffrance effroyable dont le choc suffirait peut-être à le tuer. Les rides profondes qui creusaient le visage du pirate disaient à Yéma qu'il le savait aussi. La sueur perlait au front de l'homme. L'espace d'un bref instant, l'œil de Yéma fut accroché par une curieuse broche de poignet que le pirate portait. Un visage minuscule, semblable à celui de Kenyit, lui souriait d'un air de jubilation méchante. Yéma en fut troublé. Il reporta son regard sur le visage de l'homme et le plongea dans les profondeurs glacées de ses yeux bleus. Ils le lui rendirent et parurent lire au plus profond de lui. Yéma refusa de se laisser intimider.
« Eh bien, qu'en dites-vous »
demanda-t-il sèchement avec une infime saccade.
« Acceptez-vous de négocier ?»
Sans voir les lèvres du pirate remuer, Yéma l'entendit répondre dans un murmure tout juste audible.
« Voici un gamin qui promet. On arrivera peut-être à en faire quelque chose.
Quoi ?»
fit Yéma d'un ton furieux. L'ironie de l'homme suscitait en lui une violente colère. Une étrange expression était apparue sur les traits du pirate. Il regardait Yéma avec une sorte de fascination. Un instant, il parut l'avoir déjà vu auparavant, et Yéma lui aussi ressentit la singulière impression d'avoir déjà vécu la même scène, d'avoir effectué les mêmes gestes et prononcé les mêmes paroles. Il y avait dans le regard de Kenyit quelque chose d'irrésistiblement attirant,
quelque chose qui exigeait qu'on reconnût son existence. Le silence qui régnait entre eux paraissait les lier l'un à l'autre. Yémin sentit soudain un objet pointu contre ses côtes. Le poignard à la main, la femme dit
« Emmenez doucement Kenith, Sorkor. Petit, tu viens de manquer l'occasion d'une mort rapide. Tout ce que tu as gagné, c'est de périr en même temps que ton père, et chacun d'entre vous priera le ciel pour être le premier à y passer.
Non, non, Eta, écarte-toi. »
Le pirate maîtrisait bien sa souffrance et avait conservé sa diction d'homme instruit. Il dut néanmoins reprendre son souffle avant de poursuivre.
« Quel est ton marché, garçon? Que te reste-t-il à proposer? Ton navire, donné de ton plein gré ?»
Kenith secoua lentement la tête.
« Il m'appartient déjà, de quelque manière que tu vois la situation. Je suis donc perplexe. Que crois-tu pouvoir échanger ?»«
Une vie contre une autre, » répondit Yémin d'une voix lente. Il savait que ce qu'il proposait dépassait sans doute ses compétences.
« J'ai été formé à l'art de guérir, car j'étais autrefois promis à la prêtrise de ça. »
Il jeta un coup d'œil au moignon du pirate.
« Vous avez besoin de mon savoir-faire, vous ne l'ignorez pas. Je vous sauverai la vie si vous ne tuez pas mon père. »
« Tu vas probablement vouloir me couper la jambe encore plus haut pour tenir ton pari. »
Le ton du pirate était plein de mépris. Yémin leva les yeux pour chercher une trace d'assentiment dans le regard de l'homme.
« Vous savez déjà que c'est nécessaire, » répondit-il. « Vous attendiez seulement que la douleur de la gangrène devienne telle que celle de l'amputation soit un soulagement. »
Il baissa de nouveau les yeux sur la jambe.
« Vous avez attendu presque trop longtemps. Mais je reste prêt à honorer notre marché. Votre vie contre celle de mon père. »
Kenith vacilla entre les poings de Yémin, qui dut le raffermir sur son pied. Tout autour d'eux, figés comme dans un tableau, des hommes les observaient. Les faces de cartes tenaient son père contre le bastingage afin qu'il vît bien le serpent qui attendait sa proie avec impatience.
« Voilà un bien piètre marché !» dit Kenith d'une voix défaillante.
« Augmente la mise !» « Ajoute aussi ta vie !»
Il eut un rictus qui se voulait sourire.
« De cette façon, si je gagne en mourant, nous perdons tous ensemble. »«
Vous avez une curieuse conception de la victoire, » fit Yémin.
« Dans ce cas, vous pouvez inclure votre équipage dans le pari, »
intervint soudain Vivacia.
« Parce que, si vous me volez la vie de Yémin, je vous promets de vous envoyer tous par le fond. »
Elle s'interrompit.
« Et c'est le seul marché que j'ai à proposer. »
« L'enjeu est de taille, » observa Yémin à mi-voix.
« Néanmoins, si vous êtes d'accord, je l'accepte aussi. »
« Vu ma position actuelle, j'aurais du mal à toper, »
fit le pirate. Il s'exprimait toujours d'un ton calme et charmeur, mais Yémin le sentait s'affaiblir. Un petit sourire tordit les lèvres de Kenith.
« Tu n'essaies pas d'obtenir la promesse que si je survis, je te rendrai ton navire ?»
Yémin secoua lentement la tête avec un sourire aussi mince que celui du pirate.
« Vous ne pouvez pas m'en dépouiller, pas plus que je ne puis vous le donner. Vous devrez le comprendre par vous-même, je pense. Mais votre parole suffira à m'engager pour le reste du marché, ainsi que celle de votre second et de la femme. »
Il regarda l'intéressé derrière Kenith et ajouta
« Et si les esclaves font du mal à mon père à bord de ce navire, je considérerai le marché comme nul et non avenu. »
« Il n'y a pas d'esclaves à bord de ce navire !»
déclara Saadar avec emphase. Yémin ne lui prêta nulle attention et attendit que la femme accepte sa proposition d'un petit hochement de tête.
« Si t'as la parole de mon capitaine, t'as la mienne aussi !»
fit Sorkor d'un ton bourru.
« Parfait !» dit Yémin.
Il tourna la tête et s'adressa à Saadar.
« Dégagez le chemin jusqu'au quartier de mon père. Je veux qu'on y mette le capitaine pirate au lit.
et que mon père prenne la cabine de Gantry pour se reposer. Je m'occuperai de ses côtes plus tard. »
Une fraction de seconde, Saada rendit son regard à Yémin en plissant les yeux. Le jeune garçon ignorait ce que pensait l'homme, mais il savait que le prêtre ne respecterait aucune parole, pas même la sienne propre. Il faudrait le surveiller de près.
La foule des esclaves s'ouvrit pour laisser un passage jusqu'à la dunette. Certains s'écartèrent en maugréant, d'autres restèrent impassibles. Quelques-uns regardèrent Yémin et parurent se souvenir d'un garçon porteur d'un seau d'eau et d'un chiffon humide et frais. Yémin vit son père emmené vers la cabine de Gantry. Il ne jeta pas le moindre coup d'œil à son fils et ne prononça pas un mot. Yémin décida de pousser son avantage pour situer les limites de son pouvoir. Il lança un regard aux faces de cartes qui flanquaient Saadar.
« Il règne un désordre intolérable sur ce pont, » dit-il calmement. « Je veux qu'on le débarrasse de la toile et des cordages qui l'encombrent et qu'on nettoie le bois à fond. Ensuite, attaquez-vous aux cales. Des hommes libres n'ont pas d'excuses pour vivre dans la crasse. »
Les faces de cartes se tournèrent vers Saadar, puis de nouveau vers Yémin. Ce fut Sorcor qui résolut le dilemme.
« Vous pouvez obéir au gamin, ou vous pouvez m'obéir à moi. Ce qui compte, c'est que ce soit fait, et en vitesse. »
Là-dessus, il s'en alla donner des ordres à son propre équipage. Les faces de cartes s'écartèrent lentement de Saadar pour effectuer les tâches qu'on leur avait désignées. Le prêtre ne bougea pas d'un pouce. Sorcor continuait à donner ses instructions.
Et Cory à la barre, avec Brig pour commander le pont. Je veux qu'on remonte l'ancre et qu'on mette à la voile dès que la Marietta s'écartera. On se rend tous à Anse au taureau. Allez vivement maintenant, montrez-leur comment travaille un vrai matelot.
Il jeta de nouveau un coup d'œil aux faces de cartes qui s'éloignaient lentement et inclut dans son regard le prêtre qui restait immobile, les bras croisés.
Vivement, j'ai dit. Il y a du boulot pour tout le monde. N'obligez pas Brig à en trouver à votre place.
En deux enjambées, il se plaça près de Yémin, qui soutenait plus le capitaine pirate qu'il ne le menaçait à présent, et avec autant de douceur que s'il portait un nourrisson endormi, le robuste second passa les bras autour de Kenith. Il adressa un sourire de loup à Yémin.
Tu as osé toucher une fois le capitaine. Ça n'arrivera plus.
En effet, je pense que ce ne sera plus nécessaire, répondit le jeune garçon.
Mais le regard noir et froid de la femme qu'il sentait dans son dos lui glaçait les entrailles.
Je vais vous accompagner jusqu'à votre cabine, commandant,
proposa Sorcor.
Après que je me serai présenté au navire,
répondit Kenith, et au grand étonnement de Yémin, il s'efforça de rajuster sa chemise. Le jeune garçon sourit.
« Je me ferai un plaisir de vous faire faire la connaissance de Vivacia. »
La lenteur méthodique avec laquelle Kenith traversa le pont serra le cœur de Yémin. Cet homme ne survivait que par sa seule force de volonté et sa conscience de soi. Si l'une ou l'autre venait à lui manquer, il mourrait aussitôt. Tant qu'il était résolu à vivre, Yémin disposait d'un puissant allié pour le guérir. Mais s'il baissait les bras, tout le savoir-faire du monde serait impuissant devant l'infection qui le gagnait. Monter l'échelle qui menait au gaillard d'avant fut une tâche ardue. Sorcor fit de son mieux pour préserver la dignité de son maître tout en l'aidant, alors qu'Eta, qui les avait précédés, s'était retourné pour lancer un regard furieux aux esclaves béants.
« Vous n'avez rien de mieux à faire que de jouer les badauds ?»
leur lança-t-elle. Puis, s'adressant à Brig, elle suggéra.
« Il y a sans doute des esclaves malades dans les cales. On pourrait employer ceux-ci pour les amener à l'air libre. »
Quelques instants plus tard, Kenith prenait pied sur le gaillard d'avant. Eta voulut saisir son bras, mais il l'écarta d'un geste. Le temps que Yémin parvienne à son tour en haut de l'échelle, Kenith s'était servi de sa béquille pour gagner péniblement l'étrave.
Vivacia leva les yeux par-dessus son épaule
et elle toisa son visiteur avant de dire d'un ton doux et réservé « Capitaine Kenneth. »
« Madame Vivacia. » Et il s'inclina, pas autant qu'un homme en bonne santé, mais ce fut davantage qu'un simple hochement de tête. Quand il se redressa, il rendit son regard scrutateur à la vive nef.
Yéma éprouvait un sentiment de malaise, car les narines de l'homme s'évasèrent et on lisait dans le sourire qui lui étira les lèvres à la fois de l'approbation et de la convoitise.
Son évidente appréciation troubla Vivacia, et dans un geste d'adolescente, elle se recula en couvrant sa poitrine de ses mains. Le sourire de Kenneth ne s'en fit que plus large. Les yeux de Vivacia s'agrandirent, mais elle paraissait incapable de retenir le sourire qui montait à ses lèvres. Elle fut la première à prendre la parole.
« J'ignore ce que vous attendez de moi. Pourquoi avez-vous tenté de vous emparer ainsi de moi ?»
Kenneth s'approcha d'un pas. « Ah, madame de bois et de vent, ma beauté vive, ce que j'attends de vous ne saurait être plus simple. Je vous désire pour moi. Par conséquent, ma question ne peut être que celle-ci. Que voulez-vous de moi ? Que dois-je faire pour vous conquérir ?
Je ne... Personne ne m'a... »
Manifestement déconcertée, elle se tourna vers Yéma.
Ce garçon est mien, et je suis sienne. Nous nous sommes rendus compte que rien jamais ne changerait cela. Vous ne pouvez assurément pas vous interposer entre nous.
Non, c'est avec la même affection qu'une sœur parle de son frère jusqu'à ce qu'un amant vole son cœur.
Yéma restait pantois.
La seule autre personne aussi abasourdie que lui, peut-être, par cet échange, était la femme qui était montée à bord avec Kenneth. Ses yeux s'étaient rétrécis, comme ceux d'un chat lorsqu'il observe un chien agressif.
« Elle est jalouse, » se dit Yéma. « Elle est jalouse des mots doux qu'il adresse au navire, tout comme moi. »
Il dut se l'avouer du trouble et du plaisir manifeste de Vivacia. Le grain fin des joues de la figure de proue avait rosi, et la respiration qui soulevait ses seins qu'elle dissimulait s'était accélérée.
« Je suis un navire, non une femme, » fit-elle. « Vous ne pouvez devenir mon amant. »«
Croyez-vous ? Ne vous conduirai-je pas sur des mers où nul autre n'oserait s'aventurer ? Ne verrons-nous pas ensemble des terres où naissent les légendes ? Ne nous risquerons-nous pas sous des cieux dont les étoiles n'ont pas encore reçu de nom ? Notre aventure à nous deux ne formera-t-elle pas une histoire telle que le monde entier nous vénérera ? Ah, Vivacia, je te le dis sans détour. Je te conquerrai et tu n'auras rien à craindre, je te l'assure. »
De Kenneth, le regard de la vive nef passa à Yéma. La confusion la rendait jolie, tout comme le doux plaisir que lui procuraient les propos du pirate. « Jamais vous ne prendrez la place de Yéma auprès de moi, quoi que vous en disiez, »
répondit-elle non sans mal.
« Il est de ma famille. »«
Naturellement !» s'exclama Kenneth avec chaleur. « Tel n'est pas mon souhait. Si tu te sens en sécurité avec lui, nous le garderons à bord pour toujours. »
Il sourit de nouveau à Vivacia, d'un sourire à la fois malicieux et entendu.
« C'est avec moi que je ne veux pas que tu te sentes en sécurité, madame. »
Il croisa les bras et, malgré sa béquille et sa jambe tronquée, il parvint à prendre l'allure d'un bel homme effronté.
« Je n'ai nulle envie d'être ton petit frère. »
Durant sa cour, la douleur de son moignon avait dû s'accentuer, car il vacilla soudain et son sourire se mua en grimace de souffrance.
Il courba la tête avec un hoquet, et aussitôt Sorcor apparut à côté de lui.
Vous êtes blessé, il faut vous reposer,
s'exclama la Vivacia avant que quiconque pût dire un mot.
Je le crains,
reconnut Kenneth avec tant d'humilité que Yéma comprit soudain. Le pirate était ravi de la réaction du navire. Il alla jusqu'à se demander si l'homme ne l'avait pas cherché.
« Je dois donc te quitter, mais je reviendrai te voir, si tu le veux bien, dès que j'en serai capable. »
« Oh oui, je vous en prie !»
Elle laissa tomber ses mains qui cachaient sa poitrine et entendit une au pirate, comme pour l'inviter à toucher sa paume. Il réussit encore une fois à s'incliner, mais ne fit pas mine de répondre à son geste.
« Jusqu'au revoir, » dit-il avec une nuance de cajolerie.
Il se détourna pour déclarer d'une voix plus rauque.
« Sorcor, je vais encore avoir besoin de ton assistance. »
Alors que Kenneth s'appuyait sur le solide marin et se mettait en route pour l'arrière, Yémin surprit le regard que la femme posait sur la figure de proue. Il n'avait rien d'amène.
« Sorcor !»
Tous se retournèrent au ton impérieux de la vivacia.
« Prenez soin de lui, et quand vous en aurez fini, je voudrais emprunter quelques-uns de vos archers. J'aimerais qu'au moins on décourage ces serpents. »
« Capitaine ? »
demanda Sorcor dubitatif. Kenneth s'appuyait lourdement sur lui, son visage était couvert de transpiration, mais il sourit quand même.
« Donne à madame ce qu'elle désire. Je marche sur une vive nef. Courtise-la à ma place, mon ami, en attendant que je puisse la charmer moi-même. »
Avec un soupir qui évoquait un râle d'agonie, il bascula soudain dans les bras du second. Alors que Sorcor l'empoignait et l'emportait vers l'ancienne cabine de son père, Yémin s'interrogeait sur l'étrange sourire qu'arborait toujours le navire. La femme suivait les deux hommes sans quitter des yeux le visage du capitaine Kenneth. Yémin fit demi-tour et se dirigea lentement vers l'étrave jusqu'au point où s'était tenu Kenneth. Il remarqua que nul ne faisait le moindre geste pour l'en empêcher. Il était plus libre à bord du navire qu'il ne l'avait jamais été.
« Vivacia ? »
fit-il doucement. Elle regardait Kenneth s'éloigner. Elle sortit de sa rêverie pour lever les yeux vers Yémin. Ils étaient agrandis d'étonnement, et des étincelles y dansaient. Elle tendit une main, et il se pencha pour lui toucher la paume. Les mots étaient inutiles, pourtant. Il les prononça.
Sois prudente.
Oui, c'est un homme dangereux,
convint-elle.
Kenneth,
ajouta-t-elle d'une voix caressante. Quand il ouvrit les yeux, il se trouva dans une cabine bien installée. On avait choisi avec soin le grain du bois des panneaux afin qu'ils s'harmonisent entre eux. Les appliques étaient en cuivre et retrouvaient tout leur éclat une fois bien astiqués. Des cartes roulées emplissaient les casiers qui leur étaient réservés comme de grosses gélines dans leur cage. Elles devaient constituer un véritable trésor de renseignements, toute la fortune réunie d'une famille de marchands de Terrilleville. La cabine comptait d'autres détails délicats, la table de toilette avec sa cuvette et son pot à eau en porcelaine assorti, les tableaux encadrés solidement fixés aux parois, les volets méticuleusement sculptés qui se refermaient sur les fenêtres aux vitres épaisses, bref, une chambre élégante et de bon goût. Certes, elle avait été récemment pillée et les biens du commandant éparpillés, mais état s'occupait en silence de tout remettre en place. Il régnait une forte fragrance d'encens à bon marché, qui ne parvenait pas à dissimuler la puanteur sous-jacente propre à un transport d'esclaves. Pourtant, il paraissait évident aux yeux de Kenneth que la vivacia n'était employée à cet usage que depuis peu. À force de nettoyage, on devrait pouvoir faire disparaître l'odeur, et elle redeviendrait un vaisseau propre et brillant. Quant à la cabine, c'était celle qui convenait à un vrai capitaine. Kenneth baissa les yeux sur lui-même. On l'avait déshabillé et un drap recouvrait ses jambes.
« Et où est notre capitaine en herbe ?
demanda-t-il à Eta. Elle pivota d'un bloc au son de sa voix et se précipita à son chevet.
Il est allé soigner les côtes et la tête de son père. Il a dit qu'il n'en aurait pas pour longtemps et qu'il désirait que la cabine ait été rangée avant d'essayer de te guérir.
Elle le regarda en secouant la tête.
Je ne comprends pas que tu lui fasses confiance. Il sait sûrement que toi vivant, le navire ne lui appartiendra jamais. Et je ne comprends pas non plus que tu laisses un simple adolescent pratiquer sur toi ce que tu as interdit à 3 guérisseurs compétents à Ansotoro.
Parce qu'il fait partie de ma chance, répondit-il doucement. Cette même chance qui m'a donné si facilement ce navire. Il était écrit que je m'approprierais le bateau, et le petit en est inséparable.
Il aurait voulu lui faire comprendre, mais nul ne devait savoir ce qu'avait dit l'amulette quand le garçon avait plongé son regard si profondément dans le sien. Nul ne devait être au courant du lien qui s'était forgé entre eux en cet instant, un lien qui effrayait autant qu'il intriguait Kenith.
Il reprit la parole pour empêcher Eta de poser de nouvelles questions.
« Eh bien, sommes-nous déjà en route ?»«
Sorcor nous ramène à Ansotoro. Il a placé Cory à la barre et Brig sur le pont. Nous suivons la Marietta. »«
Je vois. »
Il sourit à part lui.
« Et que penses-tu de ma vive nef ?»
Eta lui répondit en faisant une moue mi-figue mi-raisin.
« Elle est très jolie, et je suis jalouse d'elle déjà. »
Elle croisa les bras et adressa un regard oblique à Kenith.
« Ça m'étonnerait que nous nous entendions très bien. Elle est trop étrange, ni femme, ni bois, ni bateau. Je n'aime pas les discours charmeurs que tu lui tiens, et je n'aime pas non plus ce petit Yémin. »
Et moi, comme toujours, je reste indifférent à ce qui te plaît ou ne te plaît pas,
rétorqua Kenith avec impatience.
Que puis-je donner à un navire pour conquérir son cœur sinon des paroles? Elle est femme, mais pas dans le même sens que toi.
Voyant que la prostituée gardait la mine maussade, il ajouta d'un ton violent.
Et si je n'avais pas si mal à la jambe, je te jetterais sur le dos pour te rappeler ce que tu es pour moi.
De glacé, les yeux noirs d'Eta devinrent brûlants.
« J'aimerais que tu en sois capable, »
dit-elle doucement. Et avec écœurement, Kenith vit apparaître sur ses lèvres un sourire chaleureux en réponse à sa rebuffade. Kyle Havre gisait sur la couchette nue de Gantry, tournée vers la cloison. Tout ce que les esclaves, dans leur pillage, avaient laissé des affaires du second, jonchait le sol. Il ne restait que peu de choses. Yémin enjamba une chaîne en bois sculpté et une chaussette dépareillée. Tout ce qui avait appartenu à Gantry, ses livres, ses vêtements, ses outils de sculpture, tout avait été volé ou fracassé par les esclaves lors de leur mise à sac, ou plus tard par les pirates durant leur récupération beaucoup mieux organisée du butin.
« C'est Yémin, père !»
annonça-t-il en fermant la porte derrière lui. La clenche ne fonctionnait plus. Pendant l'insurrection, quelqu'un avait préféré donner un coup de pied dans le battant plutôt que d'essayer le bouton. Néanmoins, elle demeura fermée et les deux faces de cartes que Saadar avait postées comme sentinelle ne cherchèrent pas à la rouvrir. L'homme couché ne bougea pas. Yémin posa la cuvette et les linges qu'il avait récupérés dans le bureau saccagé de Gantry et se tourna vers l'homme. Vivement, il appuya les doigts sur le pouls de la gorge, et il sentit son père se réveiller en sursaut à son contact. Kyle s'écarta du garçon avec un frisson d'horreur et un cri incohérent, puis il se redressa précipitamment sur son séant.
« Tout va bien, » dit Yémin d'un ton rassurant. « Ce n'est que moi. »
Son père eut un rictus moqueur qui lui découvrit les dents.
« Ce n'est que toi, c'est vrai, » reconnut-il. Mais je te fiche mon billet que tout ne va pas bien.
Il avait une expression épouvantable, encore pire qu'au moment où les esclaves essayaient de le jeter au serpent.
Vieux, se dit Yémin. Il a l'air vieux tout à coup.
Une barbe de plusieurs jours couvrait ses joues, encroûtée du sang qui avait coulé de sa blessure à la tête.
Yéma était venu dans l'intention de nettoyer les plaies de son père et de les panser. À présent, il éprouvait une étrange répugnance à le toucher. Ce n'était pas la vue du sang, et ce n'était pas l'orgueil face à une tâche aussi humble. Le temps qu'il avait passé dans les cales à soigner des esclaves l'avait débarrassé depuis belle lurette de telle réticence. Il répugnait à toucher l'homme parce que c'était son père, et qu'un contact risquait de renforcer ce lien. Yéma n'essaya pas de fuir ses propres sentiments. Il aurait tout donné pour ne pas avoir d'attache avec cet homme. « J'ai apporté un peu d'eau pour votre toilette, » dit-il. « Il n'y en a guère parce que les réserves d'eau douce sont très basses en ce moment. Avez-vous faim? Voulez-vous que j'aille vous chercher des biscuits de mer? C'est à peu près tout ce qui reste. »«
Ça va, » dit son père d'un ton sans réplique, sans répondre à ses questions. « Ne te fatigue pas pour moi. Tu as des amis autrement importants auprès desquels faire l'empresser. »
Yéma ne releva pas l'expression. « Kenneth dort. Si je veux avoir une chance de le sauver, il va avoir besoin de tout le repos qu'il pourra prendre pour se fortifier. »«
Tu ne plaisantais donc pas. Tu vas guérir l'homme qui t'a volé ton bateau. »«
Pour empêcher votre exécution, oui. »
Son père eut un grognement méprisant. « Foutaise! Tu l'opérais même s'il m'avait jeté au serpent. C'est ta morale. Courbez l'échine devant celui qui a le pouvoir. »
Yéma tenta d'envisager la question avec impartialité. « Vous avez sans doute raison, mais ce n'est pas parce qu'il a le pouvoir. Cela n'a aucun rapport avec celui qu'il est. C'est la vie, père. Ça est la vie. Tant que la vie existe, il y a toujours possibilité d'amélioration. Par conséquent, en tant que prêtre de ça, je me dois de le préserver de la mort, même lui. »
Son père éclata d'un rire amer. « Même moi, tu veux dire ?»
Yéma répondit d'un simple hochement de tête. Kyle présenta à son fils l'entaille qu'il portait à la tête.
« Autant nous y mettre tout de suite, prêtre, puisque tu n'es bon qu'à ça. »
Yéma ne mordit pas à l'hameçon. « Voyons d'abord vos côtes. »
« Comme tu voudras. »
À geste raide, son père ôta ce qui restait de sa chemise. Son flanc gauche était bleu et noir. Yéma fit la grimace en repérant l'empreinte nette d'une botte dans la chair. Le coup avait manifestement été infligé alors que son père était déjà au sol. Le jeune garçon ne disposait que de bouts de tissu et d'eau. Le coffre à pharmacie du bateau avait disparu. Obstiné, il décida de bander au moins les côtes assez pour les maintenir à peu près en place. Sous ses mains, son père poussa un hoquet de souffrance, mais n'essaya pas de s'écarter. Quand Yéma eut fait le dernier nœud, Kyle Havre demanda
« Tu me hais, n'est-ce pas ?»«
Je n'en sais rien. » Yéma plongea un linge dans la cuvette d'eau et entreprit de nettoyer le sang du visage de son père.
« Moi, je le sais, » reprit Kyle au bout d'un moment. « C'est inscrit sur tes traits. » C'est à peine si tu supportes de te trouver dans la même pièce que moi, et encore moins de me toucher.
Vous avez tenté de me tuer, répondit Yéma d'un ton calme, sans avoir prévu une telle réplique.
C'est vrai, je l'ai fait.
Kyle eut un rire où perçait la perplexité.
Mais je suis incapable de comprendre pourquoi. Ça me paraissait sensé sur le moment.
Yéma sentit qu'il n'obtiendrait pas davantage d'explications et peut-être n'en voulait-il pas. Il en avait assez d'essayer de comprendre son père. Il n'avait pas envie de le haïr. Il avait envie de ne rien ressentir du tout pour lui. Il s'aperçut tout à coup qu'il regrettait la présence de son père dans sa vie. Pourquoi fallait-il qu'il en soit ainsi? Se demanda-t-il tout haut.
« C'est toi qui l'as décidé, » affirma Kyle Havre. « Nous n'étions pas obligés d'en arriver là. Si tu avais seulement voulu suivre ma façon de faire, si tu t'étais contenté d'obéir sans poser de questions, nous n'en serions pas où nous en sommes. N'aurais-tu pas pu une seule fois dans ta vie faire confiance à quelqu'un pour voir ce qui est bon pour toi ?»
Yéma promena son regard dans la cabine comme s'il observait le navire tout entier.
Je crois que rien de ce qui se passait ici n'était bon pour quiconque.
Parce que tu as tout gâché, toi et le bateau. Si vous aviez coopéré, nous serions à mi-chemin de Calcède à l'heure qu'il est, et Gantry, Clément et tous les autres seraient encore en vie. C'est toi le responsable, pas moi, c'est toi qui l'as voulu.
Yémin chercha une réponse mais n'en trouva pas. Il se mit à panser la tête de son père du mieux qu'il put. Ils travaillaient bien, ces pirates aux habits colorés. Depuis Éphron, elle n'avait jamais joui d'un équipage si prompt à l'obéissance, et en retour, elle acceptait leur maîtrise compétente de sa voilure et de son gréement avec une sorte de soulagement. Sous la direction de Brig, les anciens esclaves formaient une procession ordonnée, tirant des seaux d'eau et les portant sous le pont pour nettoyer les cales. D'autres pompaient l'eau de cale infecte, tandis que d'autres encore s'activaient sur le pont, armés de pierres à poncer. Et ils pourraient frotter les taches de sang tant qu'ils voudraient. Son bois ne les rendrait plus, elle le savait, mais elle n'en dit rien. Avec le temps, les humains constateraient l'inanité de leurs efforts et renonceraient. Les vivres éparpillés avaient été rassemblés et réarrimés. Quelques hommes œuvraient à retirer les chaînes et les fers qui festonnaient ses cales. Lentement, il lui rendait sa véritable identité. Elle était presque aussi satisfaite que le jour de son éveil. Satisfaite. Elle ressentait aussi une autre émotion, une émotion dérangeante. Quelque chose de beaucoup plus attirant que la satisfaction. Elle étendit sa conscience. Dans la cabine du second, Kyle Havre était assis au bord de l'étroite couchette tandis que son fils nettoyait sans un mot sa blessure à la tête. Ses côtes étaient déjà bandées. Il régnait un silence dans la pièce qui allait au-delà de la simple absence de bruit, comme si les deux personnes présentes ne partageaient même pas un langage commun. C'était douloureux et elle s'éloigna. Dans la cabine du capitaine, le pirate s'agitait dans sa somnolence. Elle n'avait pas conscience de lui aussi nettement que de Yémin, mais elle sentait la fièvre dans son foie, le rythme irrégulier de sa respiration. Comme un papillon attiré par une flamme, elle s'approcha de lui.
« Kenneth. » Elle prononça son nom pour en goûter la saveur. Un homme mauvais et dangereux. Un homme charmant, mauvais et dangereux. Elle n'aimait pas sa compagne, a priori. Mais Kenneth lui-même, il avait dit qu'il la conquerrait. C'était impossible, naturellement. Il n'était pas de la famille. Mais elle s'aperçut qu'elle attendait ses tentatives avec grand plaisir. « Ma dame de bois et de vent », l'avait-il nommée, « ma beauté vive ». Quelle bêtise à dire à un navire!
Elle repoussa ses cheveux de son visage et prit une profonde inspiration. Peut-être Yémin avait-il raison. Peut-être était-il temps qu'elle découvre ce qu'elle voulait pour elle-même.